Si vous êtes habitué de nos cultes, vous êtes peut-être déçu, vous ne retrouvez pas le dessin qu'il y avait la semaine dernière. Cette semaine, je fais une pause dans notre série de prédications, Emmanuel, Dieu avec nous. Je fais une pause parce que j'ai vraiment envie de partager ce texte sur lequel je vais prêcher ce matin, un texte que le Seigneur m'a mis à cœur depuis plusieurs semaines et qui me travaille. Et je pense que c'est le bon moment ce matin pour le lire avec vous. C'est un texte qui me travaille parce que si vous fréquentez un tout petit peu l'Église, vous savez que récemment nous avons eu un certain nombre de départs. C'est quelque chose qui interroge. Et il est bon, lorsqu'on s'interroge, de se poser la question : est-ce que Dieu a quelque chose à nous dire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la Bible, dans cette circonstance particulière ? Et il y a un texte dans l'évangile de Jean où Jésus voit beaucoup de ses disciples partir. Il est intéressant de voir comment Jésus réagit, de voir s'il y a des enseignements pour nous. Alors, ce texte dans l'évangile de Jean se trouve au chapitre 6, à partir du verset 60. Jean, chapitre 6, à partir du verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit : est-ce là pour vous une occasion de chute ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait : c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12 : et vous ? Voulez-vous aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit : n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous ? Les 12. Pourtant, l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des 12. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Comment s'y prendre quand on veut monter une équipe ? On a un projet, mais il faut travailler à plusieurs et il nous faut une équipe. J'ai besoin de ton aide. Une petite vidéo qui nous donne des pistes.
Bon, un peu de silence s'il vous plaît. Belle assemblée. Pour deux vénards entre vous qui ne le savent pas encore, le départ pour les Jeux Olympiques, c'est ici et maintenant. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Erwin Blitzer, grand spécialiste incontesté du bobsleigh qui sera notre entraîneur. 101, moteur.
T'es en direct, Dieu du stade.
Comme vous le constatez, un bobsleigh est un objet très simple.
Yeah, comme un bidet.
Merci. Merci, Brand. Le principe de base, c'est de parcourir une piste glacée le plus vite possible, de haut en bas. On zigue, on zague, sur d'espèces d'énormes montagnes russes complètement verglacées.
La glace.
Oh. Ouh. Oh là. Ah ouais. J'oubliais de vous dire. Un des rares inconvénients de ce sport, par ailleurs si plaisant, c'est la chute à grande vitesse. Ça, c'est très douloureux. Aïe. Là, on touche au cœur du problème. C'est pas qu'on se casse la gueule en bobsleigh. Non, non, on se l'éclate. Aïe. Alors, qui est volontaire ?
Question de culture générale, qui a reconnu le film ? Ça, c'est le film Les Rasta Rockets, qui retrace l'histoire de la première équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Le but, c'est d'assembler une équipe pour pouvoir partir aux Jeux Olympiques. Et là, on voit deux méthodes. Il y a la méthode du jeune athlète qui essaye de vendre du rêve. Si vous voulez partir pour les JO, c'est maintenant. Ça va être fantastique, les dieux du stade. Et puis vous avez la méthode de l'entraîneur, qui n'est pas aussi vendeuse. Lui, ce qu'il fait, c'est il montre ce qui est difficile, et il les fait fuir tous, ou presque. Quelle est la meilleure méthode pour constituer une équipe ? Dans notre texte, on voit tout un groupe de disciples qui part. Et pourquoi partent-ils ? C'est écrit au début du texte, premier verset, c'est « Parole est dure, qui peut l'entendre ?» Alors, notre texte arrive dans un récit beaucoup plus grand, et il faut peut-être donner un peu de contexte. Qu'est-ce qu'a pu dire Jésus, qui est si difficile, qui mérite qu'on parte. Le chapitre 6 de l'évangile de Jean commence par le récit de la multiplication des pains. Un miracle majeur de Jésus, majeur parce que c'est le seul miracle qui se retrouve dans les quatre évangiles. Lors de ce miracle, Jésus a nourri une très grande foule qui était venue pour l'écouter. Et franchement, ça a plu. Parce que du coup, les gens se sont mis à le suivre en masse, en foule. Du coup, Jésus s'est extrait, il a pris le bateau pour aller de l'autre côté du lac de la mer de Galilée. Mais les gens l'ont suivi, tout aussi nombreux. Alors du coup, il est revenu sur ses pas. Il commence à être vraiment populaire. Beaucoup de monde les suit. Et il le dit à ceux qui le suivent, vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. C'est pour ça que vous êtes là. C'est bien, Jésus y parle bien, mais surtout, on a des grands pique-niques gratis. Et là, Jésus a un échange avec eux, un enseignement, où il leur dit, je suis le pain de vie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait déjà étudié ce texte l'année dernière, c'était Alain qui prêchait dans la série sur les « Je suis » de Jésus, « Je suis le pain de vie ». Et ce texte, il est polémique parce que les gens qui l'écoutent, ils ont du mal à l'accepter. Dans ce texte, Jésus dit que c'est lui qui est la vraie nourriture qui rassasie. Et pour les Juifs qui l'écoutent, ils ont un peu de culture, hein. Ils savent de quoi ils parlent. La nourriture, nourriture qui vient du ciel, comme la manne envoyée par Dieu, t'es plus grand que Moïse, il y a tout un débat comme ça. Et ce débat, finit mal, puisque les gens qui viennent sont choqués. Et certains partent. Mais là, dans le texte qu'on a lu, c'est des disciples qui partent. De qui parlons-nous ? Parce qu'après, on voit les 12 des disciples. Je croyais qu'il y avait 12 disciples. Non, autour de Jésus, il y a plusieurs cercles. Il y a d'abord une foule qui le suit partout, plus ou moins grande, selon la popularité. Et puis, il y a des disciples. Et puis, au sein des disciples, il y a les 12. Mais le cercle des disciples était plus grand. Et d'ailleurs, dans les évangiles, on voit Jésus qui envoie 70 disciples deux par deux, avant d'envoyer aussi les 12 deux par deux. Et puis même si on veut serrer un peu plus, on voit que Jésus a pris plusieurs fois Pierre, Jacques et Jean, juste ces trois-là avec lui pour leur montrer des choses particulières. Donc, il y a différents cercles comme ça. Là, sur cet échange sur « Je suis le pain de vie », la foule a été ébranlée. Mais dans le récit que nous avons lu, c'est des disciples qui sont touchés et qui maugréent, comme dit mon texte. Le mot, il est un peu ancien, mais j'aime bien. Ils parlent à voix basse, par derrière. On se met pas, c'est pas une assemblée générale où on a un ordre du jour et on se met tous là. Bon, le dernier enseignement, vous en avez pensé quoi ? À qui la parole ? Non, 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 ça parle, mais à l'écart. Franchement, Jésus, il exagère. Et tu sais ce qu'il a dit ? Et tu sais ce qu'il a fait ? Et tu sais ce que j'ai vu ? Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Cette parole est dure, qui peut l'entendre ? Cette phrase, elle m'a interpellé, parce que c'est des disciples qui disent ça. Et a priori, les disciples, ils écoutent ce que leur maître le dit. Là, j'ai l'impression, ils ne s'inquiètent pas pour eux. Ce n'est pas eux qui ont du mal à entendre cette phrase. Mais quand même, tous ces gens qui sont venus, tous ces gens qui nous rejoignent, mais si Jésus leur dit ça, il va les faire fuir. Comment on va faire ? On était bien là, sur une belle courbe de croissance, ça montait, il y avait plein de gens qui venaient, qui étaient populaires, et Jésus dit ça. Mais pourquoi ? C'est pas comme ça qu'on fait quand on veut monter une équipe. Que faire dans ces cas-là ? Que fait Jésus ? Eh bien, Jésus, il retient personne. Et je dirais même au contraire. Jésus, il va au contact et presque, il provoque. Il leur dit à ses disciples, « Vous trouvez ça dur ? Mais vous n'avez rien vu ? Qu'est-ce que vous direz quand le Fils de l'homme montera là où il était ?» Et on sait où il est monté. On sait que le début de sa montée, ça commence par la croix. On va fêter Pâques bientôt. Vous trouvez que c'est pas super sexy de parler de ça pour faire des adeptes ? Eh bien, attendez de voir la croix. De voir si ça, c'est populaire, si ça, ça rassemble. Qu'est-ce que vous direz à ce moment-là ? Et pour bien enfoncer le clou, il leur dit, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Il y en a parmi vous qui ne sont pas sérieux. Et je dirais même qu'il va jusqu'au bout en disant, personne ne peut croire si ce n'est le Père qui lui donne. On n'est pas en train de rassembler. Vous n'êtes pas là parce que vous avez décidé. Vous êtes là parce que le Père vous a donné de croire. C'est quelque chose de tellement grand que c'est le Saint-Esprit en vous qui vous convainc. On n'est pas là en train de réfléchir à des tactiques humaines pour rassembler. On est dans le surnaturel, dans le spirituel. Vous n'avez aucun mérite, les amis. Ce n'est pas notre équipe, notre tactique qui fait que nous grossissons ou que les gens partent. C'est Dieu. Voilà ce que dit Jésus. Et du coup, ils partent. Beaucoup partent, nous dit des disciples qui partent. Des disciples dont le texte nous dit qu'ils arrêtent de marcher avec lui. Ce n'est pas des gens qui venaient aux réunions toutes les semaines. C'est des gens qui avaient laissé leur maison, qui avaient fermé la porte, pour suivre Jésus sur les routes. Ils avaient quand même fait quelque chose d'engageant. Et bien ça, c'est bon. On rentre, on arrête de le suivre. Donc Jésus ne va pas à la chasse derrière ceux qui partent. Il ne retient pas, il provoque même, mais il va même plus loin. Ceux qui restent, qui sont là, les 12, ils sont pas partis, ils restent, ils sont fidèles. Et ben il va les voir et il va leur dire « Et vous ? Vous voulez y aller aussi ?» Il les teste. Si vous voulez partir, il y a la caravane qui part, ne la ratez pas. Mais les 12 restent. Et il y a cette parole prononcée par Simon-Pierre, qui est un peu le porte-parole des disciples. Hein. On peut vraiment penser que les 12 se reconnaissent dans cette parole qu'ils prononcent. Où irions-nous ? Tu as des paroles de la vie éternelle. Ça, c'est vraiment un verset qui, personnellement, me touche. Un verset où on s'abandonne au Seigneur. Même si ce que tu dis, c'est difficile, il n'y a nulle part ailleurs où aller. Même si ce qu'on vit avec toi, c'est difficile, on a essayé le reste. Ça vaut rien. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Nous, on reste avec toi. Et il faut mesurer. Je pense que ce n'était pas facile pour eux, parce que même s'ils sont avec Jésus pour les bonnes raisons, c'est jamais facile de voir autant de personnes partir. Ça fait du bien de voir que quelque chose qu'on fait, ça marche, même si on le fait par conviction, même si on ne le faisait pas pour le succès. Et là, les gens partent. Et avec eux, certainement, des gens avec qui ils s'entendaient bien, des amis. Je pense à Matthieu et à Simon, le zélote. Matthieu, le collecteur de taxes, c'est Simon le zélote. Franchement, au niveau de leur choix de vie, de leurs options politiques, ils sont aussi opposés, je sais pas moi, qu'un macroniste convaincu et un militant La France Insoumise. Dans ceux qui partent, il y avait sans doute des gens qui étaient plus proches d'eux et ils se retrouvent ensemble avec Jésus. Avec Jésus. Rester avec lui pour ce qu'il dit, pour les paroles qu'il a. Non pas parce que ce sont des paroles qui plaisent, mais parce que c'est des paroles qui donnent la vie éternelle. Parce qu'ils reconnaissent qu'il est le Saint de Dieu, celui que Dieu a envoyé dans le monde. Que les paroles qu'il a viennent de Dieu. Même si c'est dur, ils veulent rester. Ils ont compris. Ils ont tout compris. Mais Jésus, qui vraiment ne leur fait pas de cadeau, finit en les remettant en place. Il ne termine pas le passage en disant « Ah, vous au moins, je peux compter sur vous. » Non, il termine en disant « Je vous ai choisi. » Vous n'êtes pas là parce que vous êtes fidèles. Vous êtes là parce que je vous connais, je vous ai choisi. Et le pire, parmi vous, il y a un diable. Il y a un traître. Nous connaissons la fin de l'histoire. Et Jean, qui connaît la fin de l'histoire, dit son nom. C'est Judas, le fils de Simon Iscariote. Alors que tout le monde est parti, que eux, Jésus les challenge, est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? Ils choisissent de rester et Jésus leur dit, c'est pas fini. Il en reste, même parmi vous, il y en a un, c'est un diable. Waouh! Mais Jésus, il sait pourquoi il fait ça. Comme l'entraîneur de l'équipe de bobsleigh sait pourquoi il fait ça. Il y a des moments où ce sera difficile. Est-ce que vous êtes prêt à passer par ce qui est difficile? Il y a besoin de les tester. Et même si lui les connaît, il a besoin qu'eux-mêmes se testent. Qu'ils savent pourquoi ils ont pris cette décision, qu'ils se souviennent de leur engagement quand ce sera difficile. Bon, voilà pour ce récit, mais je vous disais, et nous, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte pour nous aujourd'hui? Et avant toute chose, j'aimerais commencer par une erreur à ne pas commettre. Ce serait plaquer trop facilement les paroles de Jésus à notre situation. Nous ne pouvons pas nous prendre pour Jésus. Jésus est le seul chemin pour la vie éternelle, pas nous. Nous, nous pointons vers Jésus. Et à la question que Pierre pose, vers qui irions-nous, quelqu'un qui quitte cette église, il peut très bien aller dans une autre église qui pointe aussi vers Jésus. Donc, soyons clairs, contrairement à Jésus, qui est le seul chemin, nous ne pouvons pas voir dans ceux qui partent des gens qui passent à côté du seul chemin. Ceci étant dit, il y a deux choses que moi j'aimerais relever de ce texte et qui je crois sont utiles pour nous à tout moment, aujourd'hui mais aussi à d'autres périodes de notre vie. La première, c'est que, en tant qu'individu, nous avons besoin de nous positionner. Pourquoi est-ce qu'on rejoint une église? Est-ce qu'on rejoint une église parce qu'elle est chouette, parce qu'elle est cool, parce qu'il y a un super programme et qu'on y fait plein de choses, parce qu'on est bien accueilli, parce qu'il y a du bon café, une louange qui bouge, parce qu'il y a des bons repas, comme le pique-nique de Jésus? Est-ce qu'on la rejoint parce que les gens sont sympas, parce qu'on s'y fait des amis? On devrait la rejoindre parce que les paroles de vie éternelle y sont prêchées. Celles de Jésus. Parce que les paroles de Jésus sont prêchées et mises en pratique. Malgré les faiblesses que chacun peut avoir. Une église où on essaye de mettre en pratique les paroles de Jésus. Et parfois, c'est raté. On a du mal à les mettre en pratique. Dans ce cas, faut-il aller voir ailleurs, dans une autre église? on peut aller voir ailleurs. Mais, spoiler alerte, ce ne sera pas mieux à l'ailleurs. Et pourquoi ce ne sera pas mieux ailleurs ? Ce ne sera pas mieux ailleurs parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est écrit. 1 Corinthiens 11, il faut bien qu'il y ait des dissensions avec vous pour que ceux qui sont fidèles puissent se révéler. Matthieu 18, il faut bien qu'il y ait des occasions de chute. Et même ici, vous les 12, je vous ai choisis. Eh bien, il y a un diable. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça ? Je crois que ces difficultés, elles font partie du plan de Dieu pour que nous nous positionnions. Il veut, il nous demande régulièrement de nous positionner, être sûr de pourquoi nous sommes attachés. Pourquoi nous sommes attachés à lui ? Pourquoi nous sommes attachés à une église ? Son église. L'église n'est pas Jésus, elle ne remplace pas Jésus, mais il nous l'a donné justement pour que nous puissions vivre son évangile, le mettre en pratique et aussi être confrontés aux difficultés et les surmonter. C'est valable quand on reste dans une église sur la durée, c'est valable aussi quand on change d'église, quand on change de ville. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on déménage de s'attacher à une église alors qu'on en a laissé une, qu'on aimait, dans laquelle on avait des repères. Mais on n'y va pas parce que c'est facile, on y va parce que Jésus nous le demande. Ça, c'est la première chose, première leçon qu'on peut tirer de ce texte, celle de l'invitation à se positionner pour nous-mêmes, non pas par rapport aux autres, qu'ils partent ou qu'ils restent. La question de Jésus, c'est « Et vous ?» Voulez-vous partir, vous aussi ? Et il y a une deuxième leçon, je pense, qui est utile à tirer, cette fois en tant qu'Église, c'est celle de ne pas retenir les gens. Jésus ne retient pas ceux qui partent. Et je pense que si on cherche à retenir, si on cherche à plaire aux autres, à séduire, alors on ouvre un piège dans lequel on peut tomber. Parce que le jour où il y a autre chose qui ne convient pas à la personne auprès de qui on a insisté, il va nous dire « mais tu m'avais demandé de rester, et ce n'est pas aussi bien que ce que tu m'avais vendu ». Si on retient quelqu'un, si on séduit quelqu'un, on devient redevable. Il nous a fait une fleur en acceptant de venir chez nous, on lui en doit une. Jésus est notre seul maître, c'est le seul à qui nous devons plaire. Il nous invite à nous déterminer individuellement face à lui et non pas les uns par rapport aux autres. Attention à ne pas rentrer dans une relation de redevabilité, de dépendance envers les hommes. D'autant que tous ne croient pas. Tous ceux qui viennent à l'église ne croient pas. Je ne vise personne, je ne connais pas le fond du cœur de chacun. Mais si parmi les disciples de Jésus, beaucoup ne croyaient pas, si parmi les 12, il y avait un diable, il me semble qu'il y a de fortes probabilités qu'il en soit de même parmi nous. Parmi nous et dans chacune des églises. Il ne s'agit pas de se lancer dans une chasse aux sorcières, de rechercher ceux qui ne sont pas suffisamment fidèles et de les punir, les ostraciser. Regardons à Jésus. Jésus a accueilli et il a enseigné tout le monde, tous les disciples, même ceux dont il savait qu'ils ne croyaient pas. Il n'a jamais critiqué ou stigmatisé. Mais il était lucide. Et pour ne pas être déçu, il est bon d'être lucide. Et de ne pas mettre sa satisfaction, sa recherche dans le succès apparent. Parce que quand on gratte et que les choses sont révélées, on risque d'être déçu. Comme Jésus, laissez partir. Ceux qui veulent sortir de l'Église que nous formons, nous les bénissons et nous les laissons partir. Si chacun doit se déterminer individuellement devant Jésus, que chacun le fasse. Et ce n'est pas nous qui faisons grandir l'Église. C'est le Père qui donne de croire. C'est Jésus qui choisit. Je suis toujours surpris, toujours étonné. Je ne devrais pas. Je devrais être lucide, mais je suis toujours étonné de voir combien la même préparation au baptême peut produire des personnes motivées, fidèles, qui avancent, qui ont faim, et d'autres qui repartent aussi secs. Laissez partir, c'est ce qu'a fait Jésus. Il n'est pas allé voir les autres disciples pour dire du mal de ceux qui sont partis. Non, il s'est tourné vers les disciples et il leur a demandé de se positionner. Et vous, allez-vous partir? Et c'est un peu la conclusion, la question que j'aimerais vous laisser en conclusion. Et vous, allez-vous partir, vous aussi? Je crois que Jésus nous invite à nous positionner périodiquement, régulièrement. Pour nous-mêmes, pour notre rapport à Jésus. Et on le fait dans des chants que malheureusement on connaît par cœur et que du coup on chante un peu sans réfléchir. Jésus, je te suivrai, ou des choses comme ça. Choisir une église parce que Jésus nous y appelle, celle-ci ou une autre. Choisir, mais y rester. Y rester pour passer par-dessus les difficultés, pour rester attaché malgré les difficultés. Pas pour les amis, pour les activités, ou pour l'horaire du culte qui me permet de plus dormir. Choisir celle-ci parce que Jésus m'y appelle, c'est là qu'il me place. Il y aura toujours un moment difficile, un moment où je serai déçu par une décision, où je serai déçu par une personne. Et des fois, il faut partir, mais soyons honnêtes, ces fois sont rares. Et je crois que les fois où, au contraire, il faut rester et persévérer sont bien plus nombreuses. Et vous, voulez-vous, vous aussi, vous en aller? Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi et que ce soit toi qui nous attache les uns aux autres. Nous ne voulons pas former un groupe autonome, détaché de notre Seigneur, un corps détaché de notre tête. Reste à la tête, Seigneur, et rends-nous fidèles dans nos engagements envers toi. Au nom de Jésus. Amen.